Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
8h sur Europe 1. Très bon début de journée à tous.
C'est ce que l'on va découvrir, de la boue, des dégâts dans les commerces, dans les restaurants, des caves inondées.
Le réveil difficile des habitants du Gard après un épisode Cévenol cauchemardesque. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal.
Donald Trump va proposer un nom dans les jours qui viennent pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Un choix politique logique.
Fermer les bars à 23h est-il judicieux ? À Rennes, les jeunes poursuivent leur soirée dans des appartements exigus. Pas forcément une bonne idée.
Et puis 1000 supporters seulement au Vélodrome ce soir. Ça va sonner creux dans les virages.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les pluies diluviennes dans le Gard hier et donc des dégâts considérables.
Une personne est toujours portée disparue ce matin et certains habitants ont tout perdu. Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gard et vous avez passé la nuit au collège d'Anduze où les sinistrés se réveillent à peine.
Oui, eh bien, c'est peu avant minuit que la pluie s'est calmée ici à Anduze. Je me trouve devant le collège de la ville transformé en PC de crise. C'est là qu'ont trouvé refuge une dizaine d'habitants, de touristes sinistrés par la vague d'hier. Le jour se lève et les secours vont maintenant constater l'étendue des dégâts. L'adjoint au maire Henri Lacroix a peu dormi. Le réveil est difficile.
Le réveil, comment ça va être ? Ça va être compliqué parce qu'on sait ce que l'on va découvrir. Du limon sur les parkings, on sait qu'on va avoir de la boue, on sait qu'on va avoir des dégâts dans les commerces, dans les restaurants, on sait qu'on va avoir des caves inondées et on s'attend à une nouvelle pluie encore l'après-midi.
Une nouvelle journée de déluge, c'est ce que craignent les pompiers. L'adjudant chef Christian Audinck.
Je pense qu'aujourd'hui la journée va être quand même peut-être moins compliqué qu'hier, mais je pense qu'il va y avoir une journée qui va être beaucoup chargée en pluie, je pense. Et là, le tonnerre tourne, ça se charge, ça va sur la mer, ça remonte dans les Cévennes, et c'est ce qui apporte des grosses pluies qu'on a actuellement, quoi.
Voilà, les averses ont repris. Les pompiers voient la relève arriver avec soulagement. Alors que les sinistrés commencent à se réveiller, des renforts des pompiers sont justement venus des départements voisins.
Jean-Gabriel Bourgeois en direct du Gard pour Europe 1, où Gérald Darmanin et Barbara Pompili sont d'ailleurs attendus dans la journée.
75 élus qui veulent éviter de voir la grippe s'ajouter à la pandémie de Covid-19.
Ils lancent un appel en disant que la grippe est un acte citoyen. Le vaccin contre la grippe, ils écrivent ça dans le JDD ce matin, alors que l'épidémie de Covid, elle continue de progresser. Pour la première fois depuis quelques jours, le taux de positivité a progressé à 5,6 contre 5,4.
Un peu partout, des mesures de restriction sont prises. Après Nice ou encore Toulouse, voilà le tour de Rennes.
Où les bars ferment à 23h depuis mercredi. Mais que font les étudiants après ? Eh bien, ils vont s'entasser dans de petits appartements. Tout ceci est donc peut-être contre-productif. Reportage de Charles Guyard dans la fameuse rue de la Soif.
Poliment mais fermement, Farid, le vigile de l'annexe, invite les clients à sortir de l'établissement.
Monsieur, il est 23h, on n'a plus le droit.
Résultat, en quelques minutes, la très animée rue Saint-Michel est noire de monde. Simon et ses copains finissent leur verre et ça ne sera pas leur dernier. Car pour eux, pas question d'aller se coucher tout de suite.
Pas tellement en fait, on va dans les apparts des autres.
Même programme pour Nerea et Marinette.
Nous, on a un after dans un appart.
On sera une quinzaine dans un 15 mètres carrés.
Pour les deux jeunes filles, fermer les bars sitôt va à l'encontre de toute logique.
Dans les bars, on respectera les mesures. Là, on a déjà l'hydroalcoolique, le vigile qui surveille. Ouais, là, on va faire dans un appart, quoi.
En fait, ça retire le problème d'un endroit à un autre. Ça le déplace.
Ce qui se déplace aussi, ce sont les soirées d'intégration, comme celle organisée mi-septembre et durant laquelle une quarantaine d'étudiants en médecine ont été contaminés. Or, ceux-ci sont loin d'être vaccinés, visiblement.
Soit médecine ou pharmacie, en fait, ils sont quand même en train de faire des soirées d'inté, mais dans des appartements, du coup. Il y en avait une la semaine dernière, il y en avait une mardi aussi.
Alors, quelle solution, au final, pour cette autre étudiante, c'est tout vu.
Dans ces cas-là, il faudrait reconfiner tout le monde pour vraiment qu'il n'y ait aucun contact, qu'on ferme les bars à 23h, 1h ou 3h, on trouvera toujours un moyen de se retrouver.
La preuve, à minuit, les bars sont fermés depuis 1h et des groupes continuent de se former dans les rues ou les parcs. Rennes, Charles Guyard, Europe 1.
8h04, direction les États-Unis où Donald Trump pourrait nommer une femme à la Cour suprême. Il compte trancher rapidement.
Après la mort de la doyenne Ruth Bader Ginsburg, hier, les démocrates lui demandent de ne pas exercer ce pouvoir avant le scrutin dans un mois et demi. Mais le président sortant n'a rien à gagner à les écouter. C'est l'avis, en tout cas, de l'ancien ambassadeur français à Washington, Gérard Haro.
Tout ça, c'est de l'agitation politique totalement stérile. Il est évident que les Républicains ont intérêt à nommer tout de suite le juge, puisque, si j'ose dire, ils ont eu la chance que Madame Ginsburg meure avant les élections. Et ce n'est pas jusqu'à l'élection présidentielle, contrairement à ce que pensent les gens. Hein. Même si Trump est battu le 3 novembre, il reste président des États-Unis jusqu'au 20 janvier. Donc, même après le 3 novembre, Donald Trump a parfaitement le droit de nommer un juge républicain. Et même si le Sénat, le 3 novembre, passe aux démocrates, le nouveau Sénat n'arrivera que le 3 janvier. Selon moi, il est inévitable, il y aura un nouveau juge républicain à la Cour suprême. Les démocrates, évidemment, feront ce qui est normal, hein. Ils feront un petit peu de mélodrame, mais ils n'y peuvent rien.
L'ambassadeur, l'ancien ambassadeur français à Washington, Gérard Haraud, avec Caroline Baudry.
Politique aux États-Unis, politique en France aussi, avec l'aile gauche de la Macronie qui s'organise à Paris.
Sous la houlette, entre autres, de Jean-Yves Le Drian pour faire vivre la social-démocratie et la gauche au sein de la majorité. Les précisions de Jean-Rémy Baudot.
Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Voilà comment le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a clos la journée d'hier. Autour de lui, quelques 150 adhérents, 30 parlementaires et 5 autres membres du gouvernement. Du Sopt au compte public, Parly à la défense, Vargon à l'écologie, Borne au travail, Djebbari au transport. Autant de figures issues de la gauche, décidées à incarner et développer cette aile gauche de la Macronie, progressiste et républicaine. Une social-démocratie loyale au président, s'empresse de préciser un ministre présent hier. Car ce rassemblement autour du mouvement Territoire de progrès ne se fait pas sans l'aval d'Emmanuel Macron lui-même. C'est juste une évidence, glisse un participant. Emmanuel Macron veut que sa majorité recrute, s'étoffe, sans forcément arborer l'étiquette En Marche. Une coalition afin d'élargir son spectre politique à 18 mois de la présidentielle. Territoire de progrès est d'ailleurs souvent une deuxième étiquette pour ses adhérents. Une coalition qui pèsera tout de même bientôt un quart du gouvernement. D'autres ministres se préparent à la rejoindre. Olivier Véran, Brigitte Bourguignon. Et selon nos informations, le secrétaire d'État Clément Beaune s'apprêterait aussi à officialiser son ralliement.
Voilà donc les explications de Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Sachez que Cédric Villani, député écologie, démocratie, solidarité, sera en direct juste après ce journal. Restez avec nous un instant, on vous simplifie la vie pour rouler moins cher et moins polluant.
Europe 1, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal à 8h08 avec Lénaïque Meunier. Et vous ne le savez peut-être pas, mais il existe un boîtier éthanol plus simple maintenant pour équiper votre voiture thermique et ainsi faire des économies.
Tout ça grâce à une plateforme en ligne qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires pour faire passer votre voiture au bioéthanol. Les explications d'Aurélien Fleureau.
E85, le bioéthanol à la pompe, vous vous êtes peut-être déjà demandé si votre voiture essence était compatible avec ce carburant. Toutes les réponses sont réunies sur roulerpascher.com, une plateforme lancée par Sébastien Le Poles, le PDG de Flexfuel, qui a conçu un boîtier de conversion.
En rentrant simplement sa plaque d'immatriculation sur le site internet, vous obtenez directement, en quelques secondes, un devis incluant la totalité de la prestation. Ensuite, vous êtes géolocalisé, permettant de sélectionner le garage le plus proche de chez vous, et vous vous rendez chez le garagiste avec votre code unique vous permettant de procéder à l'installation.
L'entreprise a acheté toutes les bases de données afin de pouvoir faire des devis sur mesure. Objectif, rassurer les automobilistes tout en insistant sur les bienfaits pour l'environnement et pour le budget essence.
Faire un plein à 20 euros aujourd'hui, c'est possible et en plus c'est écologique, c'est-à-dire 50% d'émissions de CO2 en moins, 90% de particules en moins. On allie quand même deux choses qui sont essentielles de nos jours, l'écologie et l'économie, ce qui est aujourd'hui assez rare sur le marché.
Le boîtier coûte 700 euros, Flexfuel en vend 1200 par mois et espère rapidement doubler ce chiffre. Le bioéthanol ne pèse que 3% de part de marché des essences, mais ses volumes ont augmenté de 85% l'an dernier.
Allez, on passe au foot et Marseille reçoit Lille ce soir avec un public donc très restreint.
1000 personnes au Vélodrome, ça va sonner creux dans les virages et à Marseille, on n'est pas franchement habitué à ça. Reportage de Jean-François Pérez.
C'était lundi, en pleine nuit, à l'aéroport de Marseille-Marignane. Des centaines de supporters de l'OM font un accueil triomphal aux héros du Parc des Princes, vainqueurs du PSG pour la première fois depuis 10 ans. Quelques heures plus tard, le préfet des Bouches-du-Rhône douche l'enthousiasme avec les nouvelles mesures anti-Covid. De 5000 spectateurs, la jauge d'accueil du stade Vélodrome passe à 1000. Une présence lilliputienne dans cette enceinte gigantesque, le milieu de terrain marseillais Boubacar Camara.
Avoir 1000 personnes dans un stade qui peut en compter 65 000, c'est assez difficile. On a besoin de nos supporters et on l'a vu l'année dernière, quand ils sont là, c'est pas pareil.
Ce soir contre Lille, comme face à Saint-Etienne jeudi, l'ambiance sera digne des steppes de l'Asie centrale. au grand dam des dizaines de milliers de supporters de l'OM, dont certains vivent le match par procuration devant les grilles fermées.
Dégoûté de voir tous ces gens devant comme ça, ça me fait mal au cœur. Pour nous, l'OM, c'est toute notre vie. De voir des matchs comme ça sans ambiance, surtout à l'OM, ça fait mal. Ça pénalise l'équipe. Et ouais, sans supporters, l'OM, c'est chaud.
Marseille, Jean-François Pérez, Europe 1.
Et match à suivre tout de même en direct intégral sur Europe 1. À suivre aussi Nice-PSG, mais là c'est complètement à huis clos. Hier, Lens a battu Bordeaux 2-1, même score entre Rennes et Monaco. Et puis à suivre évidemment aussi aujourd'hui le sacre de Pogacar sur le Tour de France qui arrive ce soir.
Oui, mais l'OM justement, c'est le jour ou jamais pour le suivre sur Europe 1. Vivre dans la peau du président, vous le souhaitiez, eh ben, les journées du patrimoine l'ont fait.
Avec l'ouverture au public de l'Élysée, mais aussi celle du fort de Brégançon. Notre correspondant Frédéric Michel s'est glissé dans la peau du chef de l'État lorsqu'il est en vacances.
À l'intérieur, là, c'est photo interdite.
Dès le début de la visite, les règles sont posées, le fort s'offre au public, mais on ne s'écarte pas, on suit bien son guide.
Donc pas de photo dedans. Non, pas de photo dedans.
Valérie Collet, la directrice de l'office de tourisme de Bormes-les-Mimosas.
Chacun peut se mettre dans la peau du président, de sa famille, de ses invités, puisque chacun va pouvoir marcher sur les traces de tous les présidents de la Ve République et ensuite voir une partie des intérieurs du fort.
Au programme de la visite, le bureau du président dans l'une des tours, le salon de la chapelle, la salle à manger, les jardins, même la piscine qui a fait couler tant d'encre n'est pas cachée au public.
Qu'est-ce que c'est que cette piscine ? C'est rien du tout.
Non mais il y a des gens, ils ont fait un scandale.
Elle s'intègre bien au cadre.
Franchir la grille de Brégançon, Marc n'en revient toujours pas.
C'est vraiment une chance qu'il l'autorise. Parce que vous imaginez le protocole, quand il revient, tout vérifier.
Et certains visiteurs de rêver d'un nouveau destin.
Je serais bien ici.
On s'en accommoderait facilement, hein. Déjà une belle vue.
Je vais me présenter en 2022.
Et pour cette plongée dans la résidence d'été des président de la République, comptait environ 2h30.
Bon, on y serait bien, nous aussi, au fort de
Brégançon. On s'en accommoderait facilement, c'est la phrase à retenir. Merci
absolument.
Beaucoup. C'était le journal de Lénaïque Meunier qui revient tout à l'heure à 9h. Encore quelques instants. Et le mathématicien et député Cédric Villani est avec nous.